Bonjour Frédéric Gutmann, au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'interviewer par téléphone Fabrizio Chiovetta. Bonjour.
Bonjour.
Je vous interviewe à l'occasion de la parution d'un disque magnifique qu'en tant que pianiste, vous avez consacré à Robert Schumann. C'est votre, je crois, quatrième disque pour le label Aparté en solo, puisque vous avez enregistré également avec le clarinettiste Patrick Messina, mais après Bach, Beethoven et Mozart, dans le désordre, eh bien, on est confronté à Robert Schumann. Comment vous en êtes arrivé, justement, après ces trois précédents compositeurs, à enregistrer ce disque consacré à Schumann?
Mais en fait, mon tout premier disque solo que j'ai enregistré en 2006 pour un label canadien qui s'appelle Palexa,
oui,
était déjà consacré à Schumann. En fait, là, j'ai enregistré les Kreisler Arena, les Sender Forêt et les variations fantômes.
Et donc là,
j'ai envie de revenir à Schumann qui m'est particulièrement cher.
Oui, alors, mais en fait, quand je regardais votre discographie, et on va parler aussi des disques que vous avez enregistrés avec le clarinettiste Patrick Messina, il y a un disque consacré à la musique américaine, un disque consacré à des compositeurs comme Arvo Pärt, et puis un disque consacré à Robert Schumann, justement. Mais c'est quand même une discographie très éclectique, Fabrizio Chiovetta, que votre discographie.
Oui, c'est très éclectique, et en même temps, si on regarde ma production solo, c'est quand même très germanique.
Oui, c'est vrai.
Ils sont quand même relativement proches de.
Donc vous êtes, vous êtes italo-suisse en quelque sorte, ou comme on dit.
Exactement. Oui, je suis né en Suisse de parents italiens, donc j'ai deux nationalités.
Et vous êtes attiré par cette musique germanique, quoi, depuis toujours ou...
Depuis toujours. J'ai eu un premier professeur avec qui j'ai travaillé longtemps qui était organiste. J'ai beaucoup travaillé de Bach avec
oui.
lui. Beaucoup de musique classique viennoise, beaucoup de musique contemporaine, et j'ai gardé les romantiques pour plus tard.
Et alors justement, quand on regarde votre itinéraire, je vois que vous avez également travaillé avec Paul Bederaskoda, qui est une grande figure de la musique. C'était dans quelles circonstances?
En fait, je me suis inscrit à une de ces masterclass, j'avais 21 ans je crois. J'avoue que je me suis inscrit parce que j'étais un petit peu amoureux d'une fille qui s'inscrivait.
C'est une belle raison.
Voilà. Finalement, j'ai eu beaucoup plus de succès avec Paul Bederaskoda
qu'avec cette jeune fille.
Voilà. Et c'est vrai que...
Enfin, elle avait bon goût, elle, en tout cas, en ce qui concernait le professeur, à défaut de l'élève.
Absolument. Et je me rappelle d'un cours que j'ai eu avec Bederaskoda, où j'étais censé jouer les Kreisler Arena, justement.
Oui.
L'étudiante qui passait avant moi jouait l'opus 110. Et la durée du cours étant ce qu'elle est, elle a dû s'arrêter avant les fugues. Et alors, pour faire une boutade, il a dit « Bon, Fabrizio, enchanté, on va commencer l'opus 110 depuis les fugues. » Et en fait, je l'ai pris au mot.
Oui.
Il se trouve que j'avais l'opus 110 dans la tête et dans les doigts. Donc, ça l'a impressionné. Et depuis, on est resté très, très proche. Après, il m'a invité pour des masterclass et on est resté proche jusqu'à ce qu'il nous quitte il y a quelques années.
Alors, pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément toute la littérature des sonates de Beethoven, je précise qu'il s'agit de l'avant-dernière sonate de Beethoven, puisque j'imagine que c'est celle-là dont vous parlez, Fabrizio Chiovetta, que vous avez d'ailleurs enregistré, c'était votre avant-dernier enregistrement, en solo, aux côtés des deux autres sonates qui font partie du dernier cycle de Beethoven. C'était un disque magnifique qui était sorti justement à l'occasion de cette année Beethoven qui a été un peu marquée par le Covid. Ce sont des œuvres, elles aussi, avant de revenir à Schumann, qui vous suivent depuis toujours, ces sonates de Beethoven?
Oui, c'est des œuvres qui sont en tout cas sur mon piano depuis toujours, que j'ai joué en concert, que j'ai enseigné aussi, et voilà, qui ont mûri jusqu'à ce que j'ose les lâcher dans la nature en 2020.
Et justement, puisque quand on regarde votre discographie, il y a eu un disque consacré à des sonates de Mozart, il y a eu des œuvres pour clavier de Bach, il y a eu ces trois dernières sonates de Beethoven et aujourd'hui Schumann, à quel moment vous vous dites « je peux enregistrer une œuvre, je suis mûr pour le faire »
Ça dépend un peu des disques. Souvent, j'enregistre un disque autour d'une œuvre que j'ai beaucoup jouée en concert et je compte le programme là autour. Et souvent, j'aime la fraîcheur des œuvres que j'ai pas jouées en concert.
Ouais.
Et il se trouve que pour ce disque Schumann, c'était pas des choses qui étaient très, très jouées en concert. J'ai vraiment presque appris ce répertoire pour le disque avec plutôt l'idée de le jouer après.
Et alors justement, ce disque, alors c'est un thème, c'est un Schumann nostalgique. C'est un Schumann tourmenté, comme souvent chez Schumann, mais qui était, dans ses années, de la fin des années 1830, confronté à ses amours malheureuses avec Clara, puisque vous avez enregistré La Fantaisie, qui est une œuvre de 1836-37. Il y a les scènes d'enfants un peu postérieures, l'arabesque, et puis vous terminez ce disque avec une pièce de l'album pour la jeunesse. C'est un disque très tourné vers justement la nostalgie, l'enfance. Fabrizio Chiovetta, quand même, ça commence par La Fantaisie, ça continue par cet arabesque, les scènes d'enfants. C'était une volonté au départ de faire un disque autour de la fantaisie et le reste est venu après ?
Absolument, oui, la fantaisie était vraiment le centre du propos et j'ai beaucoup réfléchi, changé d'avis et il me semblait que c'était la chose la plus cohérente. Ça permettait de mettre en confrontation la grande forme de la fantaisie qui est de sonate finalement avec les miniatures des scènes d'enfants et l'arabesque qui est une pièce isolée. Et il y a aussi une cohérence tonale, il y a toutes ces pièces qui tournent autour de Do majeur, Sol majeur, donc on reste un petit peu dans cette ambiance. J'ai hésité à ajouter les Blumenstücke qui sont le 19, qui suivent
l'arabesque
dans le catalogue. Et voilà, vu qu'elle est en ré bémol majeur, je trouvais que tout à coup on était dans un autre univers, on aurait peut-être perdu en cohérence. Et puis cette pièce de l'album de la jeunesse fait assez copieusement référence à la dernière des scènes d'enfants, le poète parle, ainsi qu'à la coda de l'arabesque avec ce côté improvisé, parlando. Et je trouvais que ça fermait bien, comme une espèce de bis, le programme.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, on peut commencer par l'arabesque, parce que cette arabesque qui est une œuvre avec un thème délicieux. Elle se termine aussi de manière, effectivement, comme vous le soulignez, comme les scènes d'enfants, une sorte de poète qui parle. C'est très étonnant, cette fin de l'arabesque.
Oui, tout à coup, parce que c'est aussi, on arrive avec des éléments thématiques qu'on n'a pas eu avant, et cette espèce de postlude, je trouve cette musique bouleversante.
Mais ça, c'est un côté schumannien extraordinaire, c'est-à-dire que vous écoutez de la musique qui est très belle, voilà, l'arabesque ou d'autres, et puis à un moment, il vous cueille sur un thème bouleversant, il vous saisit comme ça, sans prévenir.
Exactement, de temps en temps, c'est comme si on passe de l'autre côté du miroir, tout à coup on est dans un autre monde avec des modulations qui peuvent être complètement abruptes et géniales.
D'ailleurs, puisque vous parlez de l'autre côté du miroir, Fabrizio Chiovetta, la pochette de ce disque et les photos qui accompagnent le texte de ce disque paru pour Label Aparté, elles sont très très belles. Elles sont toutes dans une tonalité nocturne, bleutée. Il y a des ruines, il y a des montagnes. Vous-même, vous êtes photographié sur un fond de montagne un peu nocturne. C'était une volonté comme ça, romantique.
Oui, alors je voulais absolument une ambiance nocturne. Alors, est-ce l'aube ou le crépuscule?
Oui.
Et donc, j'ai fait venir la photographe pendant toute la session d'enregistrement.
Lily Rose, elle s'appelle, cette photographe?
Voilà, Lily Rose. Et elle a aussi fait un petit film, un teaser qui annonçait la sortie du disque avec la Traumerei, la rêverie. Et c'est vrai que finalement, celle qui a découvert en faisant des recherches ces ruines splendides, qui sont des bains désaffectés du 19e siècle, nichés au milieu de la montagne. Et voilà, un des premiers titres de la fantaisie était aussi ruine, donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il y avait une forme de cohérence. Et puis, ces montagnes avec ce fond, j'avoue que c'était, quand on partait de l'enregistrement pour rentrer autour de 3-4 heures du matin. Voilà, donc d'où la belle lumière.
Voilà, alors cette fantaisie, opus 17, en ut majeur, elle commence par un thème très tourmenté. D'ailleurs, Fabrizio Chiovetta, est-ce que vous êtes demandé si vous alliez commencer le disque par la fantaisie ou ça s'est imposé de soi-même?
Ça s'est imposé, c'était pas du tout mon projet. J'en ai beaucoup parlé aussi avec la post-production, avec mon entourage et voilà, je crois que j'avais bien envie de commencer de manière assez cache ce disque avec la chose la plus tendue finalement, avec ce long mouvement en Do majeur qui dure 12 minutes et qui se résout seulement à la fin. Et voilà, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup hésité. J'avais d'abord pensé commencer par les scènes d'enfants, j'avoue.
Alors cette fantaisie, elle était destinée au départ à un monument pour commémorer Beethoven. C'était une commande aussi avec Franz Liszt et d'autres. Finalement, elle est dédiée à Franz Liszt, qui lui-même, en retour, a dédié sa sonate à Robert Schumann. C'est aussi un disque sous le signe de cette amitié entre ces compositeurs.
C'est vrai, il se trouve que pour moi, c'est les deux plus belles sonates romantiques, probablement les deux plus belles sonates après Schubert.
Oui, enfin les sonates que vous avez, vous les considérez pas comme romantiques, les dernières sonates de Beethoven que vous interprétez.
C'est pour ça que j'ai dit après Schubert.
Ah pardon, excusez-moi. Oui.
Mais je les considère plutôt classiques, j'avoue.
D'accord. Alors, donc effectivement, il y a un côté. Et puis, bon, cette fantaisie, elle est extraordinaire. Mais le troisième mouvement, c'est quelque chose d'absolument sublime. Ce mouvement lent. C'est Fabrizio Chiavetta, quand on aborde ce mouvement lent qui est aussi bouleversant, il se pose quand même la question du tempo, ni trop vite, ni trop lent, non?
Oui, c'est la question. Et puis c'est vrai que dans des conditions d'enregistrement qui sont aussi luxueuses, j'ai envie de dire, avec piano que j'aime beaucoup, une acoustique qui est très généreuse, on aurait tendance à se tasser. Et je pense que voilà, évidemment j'ai essayé plusieurs options, mais j'ai opté pour la prise la plus allante.
Oui, c'est ça, c'est un tempo non pas vif mais plus allant que certaines versions qu'on peut connaître de cette fantaisie.
Ouais, mais je pense que c'est important pour garder l'attention large. Et voilà, peut-être que je la jouerais un tempo en dessous si c'est en concert, je sais pas, mais pour un disque, il me semblait qu'il fallait faire comme ça.
Quand on écoute cette fantaisie au concert, alors moi j'ai toujours très peur pour le pianiste à la fin du deuxième mouvement, qui a l'air, comme le reste d'ailleurs, qui a l'air redoutablement difficile. Ça a l'air épouvantablement difficile, ce deuxième mouvement de cette fantaisie.
Tous les pianistes sont toujours très curieux, je les soupçonne d'écouter ça avant le reste.
Oui.
Mais finalement. Non, mais je me souviens que, voilà, pour être vraiment sûr de l'avoir tel que je voulais, le directeur artistique, Nicolas Bartholomé, m'a suggéré, une fois que le disque était en boîte, de rejouer le deuxième mouvement, parce qu'il était sûr qu'avec cette tension en moins, cette coda serait passée comme une lettre à la poste. Et il avait eu bien raison, puisque c'est finalement cette prise-là qui a servi.
En tout cas, c'est absolument magnifique. On va faire un détour, Fabrizio Chiavetta, par une autre actualité, puisque vous allez donner des concerts. Alors, pour nous, c'est un peu compliqué, parce que c'est pas l'Amazonie, mais ils sont en Suisse. Notamment, vous allez interpréter une œuvre de Brahms qui est absolument magnifique, Die Schöne Magelone, la belle Magelone, aux côtés de Marc Keller et de Christian Himmler, le baryton Christian Himmler. Alors, Marc Keller, on connaît ses acquaintances avec la musique. Elle a même mis en scène de l'opéra. Vous avez beaucoup travaillé avec elle déjà?
Alors, on a fait deux fois la Belle Magelone déjà. Ce sera notre troisième. Donc, une fois avec le baryton Roman Trekel, qui est à l'opéra de Berlin, et une fois avec Christian Himmler, avec qui on va redonner ce programme en février.
Mais Marthe Keller, elle est très musicienne. On a l'impression qu'elle a une véritable passion pour la musique et une grande culture musicale.
Absolument, et elle a fait des superbes mises en scène.
Elle a fait les dialogues des Carmélites, notamment.
Les Carmélites, Don Giovanni, je crois aussi.
Oui, c'est dommage qu'elle ait arrêté de mettre en scène des opéras, parce qu'elle avait un énorme talent dans ce domaine. Et puis, elle a un grand talent de conteuse. Vous êtes habitué à travailler avec des comédiens, comme ça, sur certains textes
Alors, pas plus que ça, mais avec elle, c'est vrai quand je l'ai rencontrée la première fois qu'on a fait ce projet, ça a tout de suite... pris, on a l'impression de se connaître depuis toujours, et on se comprend, et je trouve bouleversant d'être sur scène avec elle, même quand elle ne parle pas.
Oui, elle a une présence.
La belle Magelone, ça alterne donc les leaders avec chant et piano, et puis les parties récitées. Et c'est vrai que même quand elle écoute juste les leaders, c'est une manière d'occuper l'espace, d'être tellement belle, moi j'ai vraiment concentré pour jouer correctement.
Vous retrouverez Marthe Keller le 20 mars à Genève, dans la salle du Conservatoire. Vous serez aux côtés de deux autres merveilleux musiciens, l'altiste Lise Berthaud et votre grand complice Patrick Messina, clarinettiste. Elle date de quand, votre amitié musicale avec Patrick Messina?
Alors, on a eu un coup de foudre. Je me rappelle très bien la date, c'était le 31 décembre 2013.
Oui.
Voilà, j'avais été invité par la productrice de radio Ariel Buteau à France Musique pour un concert un petit peu improvisé pour le réveillon.
Oui, parce que précisons quand même pour ceux qui ne le savent pas qu'il est le clarinettiste solo de l'Orchestre National de France, Patrick Messina. Et donc vous vous retrouvez dans ces circonstances-là à le rencontrer.
Exactement. Et ce qui est drôle, c'est que c'est pour donner ce concert, enfin, j'avais un autre engagement à Dakar. Et pour un tas de raisons, je voulais pas donner ce concert. Donc j'ai prétexté cette invitation à France Musique pour me faire remplacer oui. à Dakar. Et je pense que j'ai bien fait, puisque voilà, on a dû jouer un peu un mouvement de sonate de Brahms ou Débeauté. Et j'ai l'impression qu'on s'est tout de suite compris. Et à partir de là, voilà, on est devenus très amis.
Proches musicalement et amicalement. D'ailleurs, vous avez enregistré 3 disques mémorables avec lui. L'un qui s'appelle Songs, où on trouve des œuvres américaines, notamment de la sonate de Leonard Bernstein, sa première œuvre publiée, des œuvres de Copland, de Charles Ives et même de André Previn. Et puis un autre disque consacré à Arvo Pärt, Gorecki, Kaléidoscopique. Et puis un disque consacré à votre grand amour, qui est Robert Schumann. Vous êtes rejoint par l'altiste Pierre Lehner. Schumann, il vous suit depuis toujours aussi?
Oui, depuis toujours. Je me rappelle assez clairement mon coup de foudre. J'étais adolescent, je crois. Et c'était le disque de Michelangeli qui jouait le Carnaval et le Carnaval de Vienne.
Oui.
Et voilà, j'ai acheté ça complètement par hasard et j'ai été sous le choc. Alors, ce ne sont pas vraiment deux œuvres que j'ai particulièrement envie de jouer pour l'instant, mais je me rappelle que c'était un véritable tournant.
Alors, votre disque, pour revenir à ce disque qui débute par la fantaisie, il continue par l'arabesque qu'on a déjà évoqué, et puis il y a ces scènes d'enfants. Alors ça, c'est une des œuvres les plus célèbres de Robert Schumann, 13 morceaux évocateurs de l'enfance. Rarement... un compositeur a comme ça touché l'enfance du doigt de manière aussi émouvante que Robert Schumann.
Oui, c'est vrai. Et c'est comme s'il faut parfois... Mais lui-même disait dans une lettre à Clara qu'elle devait peut-être oublier tout ce qu'elle savait de au piano, en tout cas en termes de virtuosité, pour essayer d'atteindre une espèce d'innocence qui est pas évidente sous les micros.
Oui. Avec une œuvre qui débute justement par un thème tellement émouvant et puis qui se termine par les deux derniers morceaux qui sont absolument aussi bouleversants, Fabrizio Chiovetta, c'est-à-dire que notamment le poète parle qui clôt ces scènes d'enfants, c'est quasiment le pianiste qui s'en va.
Exactement, ou je ne sais pas si à ce moment-là c'est plutôt ouais. l'adulte qui prend la parole, mais j'ai toujours en tête cette... vidéo qu'on trouve sur internet d'Alfred Cortot qui est vraiment à la fin de sa vie et qui, lors d'une masterclass, se met au piano et joue ce dernier mouvement en le commentant et avec des gros plans sur ses yeux qui sont l'émotion, et c'est absolument bouleversant. J'oblige tous mes élèves à regarder ça.
Alors, ces scènes d'enfants, c'est une des œuvres les plus célèbres de Schumann, avec ce tube notamment qui est la rêverie. À chaque fois que j'écoute cette rêverie qui est magnifique, je me dis, mais pourquoi une œuvre devient un tube comme ça? Parce que quand même, ces scènes d'enfants, elles sont toutes très belles. Et pourquoi soudain, il y a un morceau qui devient un tube encore plus que les autres?
Mais c'est mystérieux, parce que je ne sais pas si je devais retenir deux ou trois.
Oui.
Je ne suis pas sûr qu'elle serait dedans.
Mais oui, c'est ça.
Quelque chose fait qu'elle est devenue populaire. Aussi, elle a été beaucoup arrangée, j'imagine, pour d'autres instruments. Donc, elle a été aussi interprétée par des violoncellistes, des violonistes, et peut-être ça a fait pour sa notoriété.
C'est vrai, mais à un moment, on ne comprend pas pourquoi une œuvre en particulier devient plus connue que d'autres, devient iconique, alors
oui,
que tout est bouleversant dans ces scènes d'enfants. Quand vous avez choisi d'enregistrer la fantaisie en do majeur opus 17 de Schumann, vous avez tout de suite pensé aux scènes d'enfants, ou vous parlez tout à l'heure du Blumenstück, mais vous avez pensé à d'autres œuvres de Schumann?
J'ai pensé à d'autres œuvres, notamment au David Spindler, opus 6.
Oui.
J'aimerais bien enregistrer un jour, mais j'avais peur que ces deux monstres ne s'annulent.
Oui. C'est quand même deux chefs-d'œuvre écrasants.
Oui, c'est ça. Non pas que les scènes d'enfants ne soient pas un chef-d'œuvre, mais je sais pas,
Non, mais les scènes d'enfants, il y a quelque chose de touchant immédiatement. Il n'y a pas peut-être ce caractère, d'immense chef-d'œuvre que sont les David Baumgartner. C'est un chef-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre qui reste ancré quand même dans une plus grande intimité. Enfin, je ne sais pas comment m'exprimer, mais
Oui, c'est vrai.
ça peut pousser plus
Je pense
facilement
à...
à l'ombre de la fantaisie, peut-être. Et l'arabesque, c'était quoi pour faire un intermède, justement, doux amer, entre ces deux immenses pièces que sont la fantaisie et les scènes d'enfants?
On avait un grand triptyque avec la fantaisie entre mouvements, un cycle de 13 pièces avec les scènes d'enfants. Et finalement, ce qui nous manquait encore, c'était les pièces isolées. Il n'y en a pas tant que ça chez Schumann, mais il y en a quand même, et c'était bien de la mettre. Les numéros de puce se suivent et c'est la même tonalité aussi que la fantaisie, donc elle peut lui succéder, la précéder. En fait, on aurait pu faire ce disque dans l'ordre, tout fonctionne.
Mais Fabrizio Chiavetta, je disais, vous avez enregistré un disque consacré à Mozart, un disque consacré à Bach, un disque consacré à Beethoven, aujourd'hui Schumann. Et donc vous parliez de ce panorama germanique. Et la musique française, vous y pensez ou vous la réservez plus aux concerts ou à votre
Alors,
intimité?
je la réserve au concert. C'est pas ce que je fais le plus. Peut-être un jour avec Patrick Messina aussi, il y a des belles choses pour clarinette et piano.
Bah oui, il y a de quoi faire entre Debussy, Poulenc, il y a un répertoire français énorme pour la
Non, il y a
clarinette.
le grand musicologue spécialiste de Forêt, Jean-Michel Mectoux, qui m'a dit souvent que je devais, selon lui, enregistrer du Forêt. C'est vrai que c'est la musique qui me plaît énormément. Donc j'y viendrai.
Mais Forêt au piano seul ou
Ouais,
en
au
musique
piano
de
seul.
chambre? Bah oui, et ça aussi, il y a de quoi faire. Mais quand vous avez étudié avec Paul Bunyura-Skoda pour revenir à ce grand musicien, c'était quoi un répertoire purement germanique, lui, Schubert, Beethoven
Oui, je pense que j'ai probablement travaillé la sonate de Liszt aussi avec lui. Et je me rappelle que la leçon qui m'a le plus marqué, c'était, je lui ai apporté des pièces de Janáček
Oui.
dans les brumes qu'il ne connaissait pas. Et c'était un cours absolument magistral parce que tout à coup, on n'avait plus la tradition, l'expérience, mais l'intuition pure. Et là, on voyait vraiment que c'est un artiste hors norme. C'est le cours dont je garde le meilleur souvenir, je crois.
Cela étant, Paul Badura-Skoda, puis avant d'en terminer, avec cet immense artiste, il était lié à Beethoven, Mozart, Schubert, Haydn. Mais quand on voit sa discographie dans ses années de jeunesse, il enregistrait tout. C'est
Mais tout,
incroyable. Il
il y a
avait un
les études de
répertoire
Chopin,
gigantesque.
les concertos de Tchaïkovski, une très belle sonate de Berg. Oui, il a un répertoire immense. J'ai un livre à la maison où il y a sa discographie. À la fin, je crois que c'est pas loin de 30 pages. Il a tout joué.
Et vous-même, pour en revenir à l'enseignement, vous enseignez Fabrizio Chiavetta. Et alors, c'était une nécessité pour vous de transmettre ce que vous avez reçu?
C'était une activité qui est vraiment capitale pour moi. Et chaque activité, enfin celle de concertiste et celle d'enseignant nourrit l'autre. Et voilà, je ne vois plus ma vie sans l'un ou sans l'autre. Autant je pourrais pas enseigner quelque chose que je ne pratique pas, mais j'ai besoin de transmettre les expériences que je fais sur scène.
Mais vous...
Et par exemple, parce que j'ai souvent voulu aborder la fantaisie, et c'est probablement en l'enseignant que, voilà, des fois on doit réfléchir pour deux et trouver des solutions, et ça accélère le processus. Et je pense que, voilà, le fait d'avoir passé du temps avec l'un ou l'autre étudiant sur une œuvre fait que j'ai l'impression qu'elle se monte plus vite, en tout cas dans notre esprit.
Vous parliez d'Arturo Benedetti Michelangeli tout à l'heure et de son enregistrement de Carnaval et du Carnaval de Vienne de Schumann. Il y a eu comme ça des grands pianistes du passé qui ont fait que vous êtes venu au piano ou c'est des circonstances qui n'ont rien à voir en fait le fait que
Non,
vous
c'est des
soyez devenu
circonstances qui ont.
musicien.
Non, je crois que j'ai toujours eu la nécessité intime de le faire et puis. J'ai pas du tout grandi dans un milieu où on m'a emmené en concert, où on m'a fait découvrir des disques. Voilà, je me suis un petit peu construit tout seul. Et après, quand j'avais l'âge d'acheter des partitions et des disques, je me suis fait ma culture comme ça.
Bah en tout cas, cette culture, on est heureux que vous y ayez accédé. Fabrizio Chiovetta, je rappelle la parution de ce disque consacré à Robert Schumann avec la fantaisie, l'arabesque, les scènes d'enfants. Et puis vous terminez voilà, avec cet extrait de l'album pour la jeunesse. C'est un album qui comporte, je crois, plus de 40 numéros. Vous avez choisi, pourquoi vous avez choisi cette œuvre comme ça, qui termine ce disque parmi tout l'album?
C'est une pièce qui me bouleverse, je la trouve d'une beauté indicible. Et comme je l'ai dit avant, il y a vraiment des vrais rappels thématiques avec la fin du Poète parle et avec la fin de l'arabesque. Donc je trouvais que ça résumait bien le disque. D'ailleurs, j'avais d'abord pensé de le mettre comme une piste fantôme, de ne pas le créditer sur le disque.
Ah oui.
Et après, je me suis dit qu'il méritait sa place comme les autres. Alors j'ai décidé de le faire figurer au même titre que le reste du programme.
Oui, c'est vrai, puis il y a des gens qui auraient cherché pendant une éternité, puis ça aurait peut-être gâché leur plaisir, le temps qu'ils auraient
Voilà.
passé à
Et
enquêter sur cette...
j'avais déjà fait le coup avec Mozart, où il y a une
Oui.
piste fantôme, où je joue l'adagio pour harmonica de verre.
Tout à
Voilà,
fait.
pour ceux qui n'auraient pas reconnu.
Mais on va peut-être pas parler de vos projets dans l'immédiat, parce que vous avez exploré Mozart, Bach, Beethoven, Schumann. Ce sera un invité surprise le prochain, ou vous savez déjà qui c'est, sans vouloir le dire, hein.
Non, 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 mais je peux. Je pense évidemment à Brahms, qui est encore un germanique qui manque à mon
Oui.
tableau de chasse et que j'aime de tout mon cœur. Donc peut-être Brahms, ou j'aimerais bien revenir à Schubert aussi.
Bah en attendant ces projets, on écoutera avec un grand bonheur tous vos précédents disques et le dernier qui vient de paraître consacré à Robert Schumann, Fantaisie, Arabesque, Scène d'enfant et une pièce extraite de l'album Pour la jeunesse paru pour le label Aparté. Fabrizio Chiovetta, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.